de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Rencontre avec le président, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfoud MD, a exprimé sa démission. TNI AU prépare un avion pour aider KPU dans la distribution logistique en Papouasie. PPLN et Panwaslu de Singapour se préparent physiquement avant le vote. Le PPLN Stockholm donne suite aux informations selon lesquelles les citoyens indonésiens n'ont pas encore reçu leur bulletin de vote. Ambassade de Langte a organisé une table ronde avec des scientifiques et des militants féminines. Les Émirats Arabes Unis investiront dans divers secteurs en Indonésie. Voici le journal complet. Mahfoud MD a officiellement annoncé sa démission de son poste de ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité. La lettre de démission a été soumise au président Joko Widodo au Palais Merdeka Jakarta jeudi 1er février. Mahfoud a été reçu par le président au Palais Merdeka dans l'après-midi.
Saudara sekalian, baru saja saya.
Mesdames et messieurs, je viens d'être reçu par le président M. Joko Widodo, qui est accompagné du ministre d'État M. Professeur Pratikno. J'ai soumis une lettre concernant le maintien de mes fonctions de ministre coordonnateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité. Je dis en substance, j'ai soumis une demande d'arrêt. Mahfoud a déclaré que le contenu de la lettre contenait trois choses. Le premier est lié à ses remerciements au président qui l'a nommé ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité. Deuxièmement, concernant sa demande de quitter son emploi. Enfin, nous nous excusons s'il y a des problèmes liés à des travaux qui n'ont pas été effectués correctement. Mahfoud a déclaré que sa démission du cabinet était due au fait qu'il se présentait comme candidat à la vice-présidence aux côtés de l'ancien gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo. Auparavant, le président Joko Widodo avait déclaré qu'il respectait la décision de Mahfoud de démissionner du cabinet indonésien avancé, car c'était le droit de la personne concernée. Le commandement des opérations aériennes 3 de l'armée de l'air indonésienne, TNI, prépare des avions et des hélicoptères pour aider la Commission électorale générale, KPU, à faciliter la distribution de la logistique électorale dans certaines zones de Papouasie. Le commandant du commandement des opérations aériennes 3, le général de division aérienne de TNI, Beni Arfan Abiak, jeudi 1er février, cité Pantaka, a souligné que Tous les grades de la base aérienne des Moluques et de Papouasie sont prêts à aider le gouvernement régional et le KPO pour faire le programme électoral national de 2024 en succès. Le général de division aérienne de TNI, le général de division aérienne Béni, a déclaré que tous les types d'avions et d'hélicoptères de transport de l'armée de l'air indonésienne seraient préparés à la demande du KPO à des fins de distribution dans la région de Papouasie. Selon Béni Arfan, plusieurs régions de Papouasie présentent un niveau de difficulté élevé car les transports sont très limités et le terrain est difficile. Il existe donc un réel besoin de transport aérien pour répondre aux besoins de la communauté et du gouvernement local. Le Comité électoral à l'étranger, PPLN, collabore avec le Comité de surveillance des élections, Panwaslu, et l'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI, à Singapour pour effectuer les préparatifs physiques avant le vote qui aura lieu le 11 février 2024. Le président du Panwaslu de Singapour, Nanda Handaru, a déclaré à Antara jeudi 1er février que l'installation de tentes était en cours à l'ambassade d'Indonésie à Singapour et que tous les espaces ouverts de l'ambassade d'Indonésie à Singapour seraient fermés. Ces tentes seront ensuite utilisées comme bureau de vote ou TPS, lieu d'inscription et autres installations pour les électeurs qui viendront directement à l'ambassade d'Indonésie à Singapour. Nanda a également déclaré que depuis le 8 janvier, le groupe d'organisation du vote à l'étranger, KPPSLN, POS, a envoyé environ 44 000 bulletins de vote aux électeurs qui voteront via le système postal. Le Comité électoral à l'étranger de Stockholm, PPLN, a enregistré que 614 citoyens indonésiens ont voté par voie postale. Pendant ce temps, 892 citoyens indonésiens voteront directement au bureau de vote de Stockholm le 10 février. Le président du PPLN Stockholm, Kiki Rizky, contacté par Antara, a déclaré jeudi 1er février que le PPLN Stockholm publie également les adresses des électeurs potentiels qui ont rendu leur bulletin de vote et jusqu'à présent, personne n'a signalé que leur adresse n'avait pas été enregistrée. Il a également expliqué que le PPLN Stockholm avait reçu la logistique nécessaire et que le bulletin de vote restant encore disponible le jour de vote à Stockholm serait utilisé pour des électeurs supplémentaires. L'ambassade d'Irlande, en collaboration avec la Banque d'Indonésie, a organisé une table ronde intitulée « Les femmes et l'avenir du travail » aperçu des femmes dans le secteur STEM au musée de la Banque d'Indonésie, Jakarta, jeudi 1er février. Dr. Niam Shaw, une scientifique irlandaise, Nova Farida Lestari, une militante indonésienne du patrimoine caché, et Miss Ari du Musée maritime de Jakarta, étaient panélistes à l'activité. La discussion a lieu pour commémorer la Sainte Brigitte. L'ambassadeur adjoint d'Irlande, Audran McMahon, a expliqué « La Sainte Brigitte Day est une célébration de l'autonomisation des femmes en Irlande. »
Yes, so it's really about an Irish figure, historical figure, Saint Bridget, who.
Il s'agit en réalité d'une figure irlandaise, d'une figure historique, Sainte Brigitte, qui a défié les cultures et les normes pour promouvoir et construire sa communauté et promouvoir l'autonomisation des jeunes femmes et des personnes âgées. Et nous essayons donc de promouvoir cela en Indonésie, où nous constatons que beaucoup de femmes font le même genre de choses aujourd'hui. Cet événement a donc pour objectif de promouvoir les femmes et les filles pour qu'elles soient capables de réaliser leur plein potentiel. Et nous pensons que ces personnages, comme tout au long de l'histoire, peuvent servir de modèles, de héros pour inspirer en particulier les jeunes femmes. Outre que la promotion de la culture irlandaise et indonésienne, l'ambassadeur adjoint d'Irlande, Audran McMahon, a également déclaré que la table ronde visait également à développer la science, la technologie, l'ingénierie mécanique et les mathématiques dans le contexte de l'autonomisation des femmes en Indonésie. Le ministre de l'Énergie des Émirats Arabes Unis, EAU, Souhail Al-Mazrui, a déclaré que les Émirats Arabes Unis investirait dans divers secteurs en Indonésie et a déclaré que 2023 serait une année fructueuse pour la coopération entre l'Indonésie et les Émirats arabes unis. comme l'a rapporté Antara lors de la table ronde EAO Indonésie organisée jeudi 1er février par l'ambassade des Émirats arabes unis à Jakarta. Al-Mazrui a déclaré que sa partie travaille avec l'autorité indonésienne des investissements pour voir le potentiel d'investissement, discuter ensemble et espérer apporter des investissements importants. Al-Mazrui a déclaré que la délégation des Émirats arabes unis est très intéressée par les secteurs d'investissement proposés par le gouvernement indonésien, notamment l'énergie verte, la logistique, les infrastructures, l'alimentation et la sécurité alimentaire en Indonésie. Il a également déclaré que les Émirats arabes unis et Masdar étaient intéressés à explorer des investissements dans le renforcement de la capitale de Nusantara, IKN, grâce aux énergies renouvelables en collaboration avec PLN. En outre, il attendra avec impatience l'expansion après la première phase de la centrale solaire de Cirata, PLTS, dans l'ouest de Java, en cherchant à fournir une proposition pour l'expansion de Cirata jusqu'à 500 MW. Al-Mazrui a déclaré que l'Indonésie était la priorité des Émirats arabes unis et qu'il promouvait non seulement les investissements en Indonésie, mais établissait également des partenariats avec le reste du monde pour promouvoir l'Indonésie dans le monde. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Armée prolonge l'état d'urgence en Birmanie » avec Maudry. Sur jeudi tard, mercredi dernier, 31 janvier, la junte militaire de la Birmanie a de nouveau prolongé l'état d'urgence dans le pays pour les 6 prochains mois. La plus haute instance décisionnelle de la Birmanie, le Conseil national de défense et de sécurité, a décidé de prolonger l'état d'urgence qui a expiré mercredi à minuit. La prolongation de l'état d'urgence intervient à la veille du 3e anniversaire du coup d'état qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. La prolongation du statut d'urgence a également entraîné le report des élections promises par les autorités après le coup d'État du 1er février 2021. Les dirigeants militaires de la Birmanie ont en fait prolongé l'état d'urgence à plusieurs reprises depuis leur prise de pouvoir. La décision de l'armée de déclarer l'état d'urgence à ce moment-là a donné lieu à des protestations massives qui ont reçu une réponse répressive de la part de l'armée. Selon l'association locale d'assistance aux prisonniers politiques depuis le coup d'État, au moins 4 500 civils ont été tués et environ 20 000 personnes arrêtées pour des raisons politiques. Dans le même temps, les Nations Unies, ONU, ont déclaré que plus de 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir vers divers pays, dont l'Indonésie, en raison des violences en Birmanie. Le chef de la junte militaire, le général Min Aung Hlaing, a admis que son parti ne pouvait pas lever l'état d'urgence car il avait affaire à des groupes ethniques armés dans tout le pays. Selon lui, l'armée est toujours troublée par les attaques coordonnées menées par trois groupes rebelles ethniques minoritaires dans le nord de la Birmanie en octobre dernier. Ils ont attaqué les troupes de la junte et capturé de nombreuses villes et avant-postes de la junte militaire. Prolonger l'état d'urgence ne résoudra certainement pas le problème. Au contraire, les personnes et les groupes qui s'opposent à la politique militaire continueront à se battre. La situation politique actuelle en Birmanie pose également des défis à l'intégrité, à l'unité et à la pertinence de l'ASEAN. Depuis le début du conflit, l'ASEAN, notamment l'Indonésie qui assure la présidence de l'ASEAN en 2023, n'a cessé de faire preuve de son engagement pour aider la Birmanie à sortir de la crise. Cependant, jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été satisfaisants. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné à plusieurs reprises que la mise en œuvre du consensus en 5 points, obtenu lors de la réunion de l'ASEAN à Jakarta en 2021, reste la principale référence pour résoudre le conflit en Birmanie. Les principaux points du consensus en 5 points, tels que la violence doit cesser immédiatement en Birmanie et toutes les parties doivent faire preuve de la plus grande retenue, et un dialogue constructif entre toutes les parties intéressées doit être entamé pour trouver une solution pacifique dans l'intérêt du peuple, n'a toujours pas été réalisé correctement. Cette année, la présidence de l'ASEAN est assurée par le Laos. Espérons que la résolution des problèmes de la Birmanie par le biais du consensus en 5 points puisse continuer à être encouragée afin que la paix puisse être instaurée en Birmanie. Bon, cher Gétard, c'est tout le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 février 1950, la création d'une université d'Indonésie. Après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, l'armée coloniale néerlandaise reprit le contrôle de Jakarta à la fin de 1945. Le gouvernement civil des Indes orientales néerlandaises a créé alors une université d'urgence à Jakarta. Le nom Nut Universiteit a ensuite été changé en Universiteit van l'Indonésie. Après que Jakarta a été reprise avec succès par le gouvernement indonésien, l'Universiteit van Indonesië a changé son nom pour Universiteit Indonesië. L'Universiteit Indonesië a officiellement commencé ses activités le 2 février 1950 avec son premier recteur, Ingénieur R.M. Panji Surahman. En 1955, le gouvernement a remplacé le mot indonésien « université » par « universitas », devenant ainsi l'Universitas Indonesia. Bien que les origines de cette université remontent à la fondation de la faculté de médecine japonaise en 1849, le 2 février 1950 est célébré comme la date de fondation de l'Université d'Indonésie. Le 2 février est la journée mondiale des zones humides. La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. Cette journée a été créée pour sensibiliser à l'importance des zones humides pour le monde et à la diversité de la vie qui y existe. La journée mondiale des zones humides a été organisée pour la première fois par un groupe d'écologistes souhaitant célébrer et protéger les zones humides en 1997. Le 2 février a été choisi pour marquer la date à laquelle la Convention sur les zones humides a été rédigée et approuvée par les pays participants lors d'une session tenue dans la ville de Ramsar en Iran en 1971. Les Nations Unies ont alors reconnu les efforts des environnementalistes et l'importance de protéger ces zones humides et ont officiellement institué la Journée mondiale des zones humides qui sera célébré à l'échelle mondiale en 2021. En plus de diffuser des informations sur l'importance des zones humides, la Journée mondiale des zones humides vise également à encourager les communautés et le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir la perte des zones humides. Le 2 février 2012, le naufrage du MV Rabaul Queen en Papouasie-Nouvelle-Guinée. MV Rabaul Queen est un ferry à passagers appartenant à une société de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rabaul Shipping. Le navire servait autrefois aux passagers entre Kimbe, une ville de l'île de Nouvelle-Bretagne, et Lae, la deuxième plus grande ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 2 février 2012, le MV Rabaul Queen, transportant 350 passagers et 12 membres d'équipage, a chaviré en raison des conditions instables de la mer des Solomon et le navire a été heurté par de grosses vagues. Le nombre exact de victimes est difficile à connaître parce qu'il n'y a pas de manifeste du navire, mais ABC Australie a rapporté qu'au moins 140 personnes sont mortes dans l'incident. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ses amis, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « La numérisation est absolue » a affirmé le gouvernement indonésien. La numérisation est absolue dans tous les secteurs, y compris le commerce. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, lors de sa visite à Solo dans le centre de Java, cité par Antara mercredi 31 janvier. Selon le ministre Zulkifli, jusqu'à présent, son ministère continue d'encourager les réunions de coopération impliquant les commerçants traditionnels, les micro, petites et moyennes entreprises et le commerce électronique. La réunion vise à se compléter et à ne laisser personne de côté. Le ministre Zulkifli espère que les commerçants vendront et maîtriseront non seulement la vente hors ligne, mais aussi la vente en ligne. Il a également expliqué la nécessité pour les micro, petites et moyennes entreprises et les commerçants traditionnels d'être formés à la présentation et au conditionnement, par exemple une sauce en bouteille est plus belle qu'un emballage en plastique. Le ministre du Commerce a considéré la transaction dans le commerce numérique comme satisfaisante. En 2023, les transactions sur le commerce électronique s'élevaient, comme on pouvait s'y attendre, à environ 533 000 billions de roupies. Lors de la journée nationale des achats en ligne, la transaction atteint 25,7 billions de roupies. En outre, il existe une publication du règlement ministériel du commerce numéro 31/2023 sur la licence commerciale, la publicité, le développement des affaires et la supervision des entités commerciales dans le commerce par le biais d'un système électronique. À l'occasion, le ministre Zulkifli Hasan a affirmé que les commerçants traditionnels et les micro, petites et moyennes entreprises devraient éviter de s'impliquer dans des prêts préjudiciables. C'est Jolitar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh, siapa menebak-nebak siapa dalangnya?
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et je vais vous présenter Ikan Payo. Sajoitar, le village traditionnel de Miduana dans le village de Balegde, régence de Cianjur, une destination touristique qui possède une culture riche et le charme de la beauté naturelle typique des montagnes. Il est intéressant de noter que ce village de 21 maisons habitées par 21 familles maintient également ses traditions ancestrales, même à l'époque moderne comme aujourd'hui. Par exemple, la tradition de construire des maisons avec des portes orientées au sud ou au nord. La procédure de plantation du riz y est encore traditionnellement pratiquée. Sajoitar, pas seulement, il a une culture et des traditions intéressantes, mais le village traditionnel de Miduana propose également une nourriture spéciale inhabituelle pour les étrangers, à savoir le poisson payo. Les poissons payo sont des poissons qui ressemblent à des têtards, mais sont de plus grande taille, à savoir la taille de pouce d'un adulte. Cet animal vit attaché aux rochers dans les rivières de la région. Le poisson payo est généralement préparé en le faisant frire jusqu'à ce qu'il soit sec. En dehors de cela, les gens le transforment souvent en curry de poisson payo. C'est si délicieux, surtout lorsqu'il est mangé avec du riz chaud. Chojoitar, selon les croyances locales, ce plat de poisson payo aurait des propriétés de jeunesse et de longue durée. De toute évidence, des dizaines de personnes dans ce village traditionnel semblent toujours en forme et en bonne santé. Même si elles ont plus de 100 ans, ils peuvent effectuer des activités quotidiennes, notamment aller au jardin pour cueillir des légumes. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux et souhaitent prouver les bienfaits des poissons payo, venez au village traditionnel Miduana à Cianjur, Java occidental. Mon cher Jeter, c'est tout, le magazine culturel.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu. Jangan mengetuk
bukakan pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukan lakucimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Je vais vous présenter Katy Perry, porte une robe de créateur indonésienne. Chers auditeurs, Katy Perry, une pop star mondiale connue pour son style de mode expressif et unique, a récemment fait une percée en choisissant de porter des vêtements de créateurs indonésiens. Sa décision est pas seulement devenu un moment fort dans le monde international de la mode, mais a également fait la fierté de l'industrie de la mode indonésienne. Katy a attiré l'attention avec son apparition élégante et unique lors de la fête du 60e anniversaire de Jeff Bezos, il y a quelque temps. La fête organisée par le patron d'Amazon à Beverly Hills, en Californie, avait un thème spécial, à savoir Alien Fashion. Et Perry était magnifique dans une robe du créateur indonésien Mehdi Choi de la marque Maison Mei. Serge Littard, la chanteuse de Dark Horse, portait une robe rose de la collection Capsule Nayette, rendant son apparence plus futuriste et époustouflante. La collection Capsule Nayette de Maison Mei a effectivement été lancée fin 2023. Entre-temps, le nom Nayette a été choisi par Maison Mei car il s'inspire des nymphes, des lacs et des sources de la mythologie, et la figure de Naiade reflète l'élégance et la puissance naturelle de l'eau. L'apparition de Katy Perry à la fête d'anniversaire de Jeff Bezos a vraiment attiré l'attention. La robe qu'elle portait la faisait vraiment ressembler à un ange Naiade. La robe est dominée par le rose pastel, complétée par une aile plissée asymétrique dans le dos. Katy Perry utilise également un maquillage de style alien avec l'ajout d'antennes sur son front, un nez artificiel et des accents supplémentaires sur les oreilles. Sorjami Maison Mei est une marque célèbre pour ses robes de mariée sur le thème couture et connue des femmes de divers pays. Mehdi Choi, auparavant connu pour son expertise dans les techniques de drapage et la création de silhouettes qui mettent en valeur la silhouette féminine. Grâce à la collection Nayette, Mehdi Choi a réussi à créer des robes qui sont pas seulement époustouflantes, mais qui présentent également une sensation mythologique unique. De plus, lorsque le travail des créateurs indonésiens a été porté par l'icône pop Katy Perry, cela semblait prouver que la mode indonésienne avait un attrait sur la scène internationale. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuan. Ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya. Hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti.
Of Indonesia.
I really need, 'cause you're a angel, you know better. You can't. right, and I was so wrong, and my so strong, it all happened like magic. I'm intoxicated, now I'm home. Ooh, baby, you're the one I really want, I really need, 'cause you're one day.
To the fall, do this one more time.
Just you.
Let's go.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson pop du Kalimantan occidental intitulée Cha Uncang. La chanson Cha Uncang raconte l'histoire d'un enfant qui ose ou d'une fille timide lorsqu'elle est proposée par un célibataire. Les paroles de la chanson Cha Uncang sont des comptines qui ont été transmises de génération en génération. Elles sont donc toujours populaires à ce jour. Les paroles de Cha Uncang symbolisent également l'amour des jeunes de la tribu Sambas du Kalimantan occidental. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Cha Uncang de Kalimantan occidental chantée par Eliza Dwi Rahmi. Bonne écoute.
Cha uncang burung cha uncang ape di uncang dalang tempurung anak dari supan kan bujang cacak ke dapur mencium puntung cha uncang burung cha uncang ape di uncang dalang tempurung anak dari supan kan bujang cacak ke dapur mencium puntung kau teh kau ning usah nak supan melihat bang hitam datang nak minang si adik nang lapar Cha Uncang guncang apa diuncang dalam temburu anak dari supan kan bujang cacak keda
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voixindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voix Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.